Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Objectif bas carbone, la France s'est fixé un programme ambitieux pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais les actions engagées sont visiblement loin d'être suffisantes. Urgence climatique, la France doit mettre le turbo. C'est ainsi que l'on peut résumer le verdict du Haut Conseil du Climat qui a rendu son premier rapport cette semaine. Selon les experts de ce Haut Conseil, installé le 27 novembre 2018 et officiellement créé le 14 mai dernier, il faut changer de méthode, légiférer, mieux encadrer les politiques publiques, procéder à des évaluations avant, pendant, après, en un mot. Être plus rigoureux, plus performant et engager des réformes de fond à tous les niveaux. En cette fin d'année scolaire, le gouvernement doit donc revoir sa copie et développer une stratégie gagnante. Il a 6 mois pour répondre et pendant ce temps, ça se réchauffe. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Que recommande le Haut Conseil du Climat? Comment mieux faire? Nous en parlons avec Corinne Lequéré. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, présidente du Haut Conseil pour le Climat. À vos côtés, Morgane Créache. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du réseau Action Climat et également avec nous autour de la table, Simon Roger. Bonjour.
Bonjour.
Rédacteur en chef des pages Planète du journal Le Monde. Et en seconde partie d'émission, comment opérer la bascule côté citoyen? C'est la question que nous poserons à Maxime de Rostolland, fondateur des Fermes d'Avenir, de Bluebees, et puis qui lance aussi un nouveau mouvement citoyen, La Bascule, et un festival intitulé En Zéro qui aura lieu les 30, 31 août et 1er septembre sur le plateau 2000 Vaches. Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la saison avant la grille d'été de France Culture. Émission toujours en partenariat avec la rédaction des pages Planète du Monde. Et un grand coup de chapeau, j'en profite, à la petite équipe qui assure à mes côtés le contenu et la réalisation de l'émission, Anaïs Morales et Alexandra Malka, avec nos complices maison, Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, avec aujourd'hui à la technique, Anthony Thomasson.
On ne pourra plus émettre en France, en 2050, plus de gaz à effet de serre, de CO2, que ce que peuvent absorber nos arbres. Nos arbres et tous les végétaux de France. C'est ce que prévoit l'accord de Paris. On met dans la loi ce qui a été adopté à la fin 2015 dans l'accord de Paris. Le vrai sujet, c'est comment on y arrive. On parle d'état d'urgence climatique. Mais comme quand on dit qu'on est en état d'urgence pour un problème de sécurité et qu'on dit on va prendre des mesures exceptionnelles, eh bien ça se passe pas facilement parce que ça bouscule des habitudes. Moi, je suis le premier à le penser qu'il y a d'abord des sujets de comportement. Et donc ça implique les citoyens. Le but, c'est d'entraîner les citoyens et encore plus que l'État, c'est les citoyens eux-mêmes qui se mobilisent comme ceux qu'on a eu dans cette pétition et d'autres à l'échelle locale, dans les entreprises, dans les collectivités locales qui font ce mouvement, que ça devient un mouvement général de baisse des gaz à effet de serre. Vous savez bien que avant même de changer de voiture, par exemple, pour avoir une voiture qui consomme moins. Ou avant, dire qu'on va faire du covoiturage. Les émissions de CO2 de la France, c'est principalement, premier facteur, les transports. Et dans les transports, c'est les voitures individuelles et les camions.
C'était François de Rugy sur France Inter le 27 février 2019. Des engagements, des décisions prises par le gouvernement. Avec quelle efficacité effective? C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec vous, Corinne Lequéré, le Haut Conseil du Climat que vous présidez. Il faut peut-être préciser pour nos auditeurs quel est cet organisme. Donc, il est indépendant et donc chargé d'émettre des avis, des recommandations?
Tout à fait. Le Haut Conseil pour le climat a été installé par le gouvernement comme étant un organisme indépendant pour évaluer la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre en France, mais plus important encore, la stratégie pour la réduire en fonction des objectifs. Et donc, on a commencé à travailler il y a environ 6 mois seulement. Et nous avons publié cette semaine notre premier rapport.
Quand vous dites nous, donc 13 membres, même si vous n'êtes plus que 11, parce que Pierre Larouturou et Pascal Canfin ont été élus députés européens et donc ne font plus partie du Conseil, et ils seront remplacés à la rentrée, j'imagine. Nommés pour 5 ans, vous êtes des spécialistes essentiellement autour de vous?
Oui, essentiellement des spécialistes, des climatologues, des spécialistes en transition énergétique, des économistes, et qui sont là pour apporter un regard, comme vous dites, d'experts. Et du coup, c'est un regard à long terme. Et c'est ça qui différencie notre Haut Conseil des autres instances qui existent déjà, c'est qu'on est installé le Haut Conseil de manière permanente, mais les membres pour 5 ans, renouvelables une fois. Et donc, on va pouvoir, comme on doit faire pour répondre au changement climatique, avoir une vision vraiment à long terme.
Donc 5 ans, et chaque année vous êtes censé rendre un rapport, mais vous pouvez vous auto-saisir ou être saisi. Hein, donc ça veut dire effectivement on peut vous retrouver assez régulièrement sur des questions importantes d'environnement.
Voilà, sur des questions de climat.
Alors vous disiez, nous parmi d'autres, c'est vrai qu'on a vu fleurir dans la presse ou entendre sur certaines antennes parler d'un nouveau bidule ou d'un théodule, parce qu'il faut nous expliquer un petit peu ce qui vous différencie des autres. Je crois qu'il existe 60 comités sur l'environnement et qu'on se dit encore un autre. Est-ce que celui-ci sera plus performant, plus percutant? Est-ce qu'il parviendra véritablement à faire bouger ces lignes?
Mais c'est à vous de juger, je pense. Hein, mais ce qui nous différencie, c'est qu'on doit faire une évaluation de ce qui se met en place. Donc, on est vraiment à l'extérieur. En fait, on jette un regard critique plutôt sur les politiques du gouvernement. Et c'est ce qui nous différencie de manière indépendante. Et on a vraiment bien revu en profondeur ce qui se passe à l'intérieur de la mécanique des décisions gouvernementales. Et on est arrivé à un consensus, et ce qui est représenté dans notre rapport cette semaine.
On va en parler. Simon Roger.
Juste pour prolonger la question d'Aurélie, il y a un autre outil programmatique qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Mm-hmm. Pour le coup, la thématique générale, est celle qui est au cœur du premier rapport du Conseil pour le climat, c'est cette question des émissions et comment arriver, ou en tout cas, est-ce qu'il est possible d'atteindre, a priori, pas avec les mesures actuelles et le rythme actuel, la neutralité carbone à l'horizon 2050. Comment le Conseil pour le climat se positionne par rapport à cette... Alors, c'est pas une instance, mais en tout cas, cet outil de stratégie, puisque vous parlez de stratégie, qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone.
Oui, la stratégie nationale bas carbone a été développée par le gouvernement, par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et donc, c'est eux qui ont fait les analyses qui soutiennent l'objectif fixé par la France ou en cours de considération en ce moment, donc de neutralité carbone en 2050. Donc, c'est vraiment un groupe qui est au service du gouvernement, qui a travaillé avec les différentes instances ministérielles au sein du gouvernement pour voir qu'est-ce qui était possible dans chaque secteur qui émet en ce moment dans la société. Donc, ils ont fait une trajectoire qui s'appelle avec mesures supplémentaires, donc qui est très, très demandante. Et ils arrivent avec une trajectoire réaliste ou en tout cas techniquement réaliste pour arriver à la neutralité bas carbone. Et nous, du coup, on porte un regard extérieur à ce que le travail qu'ils ont fait. Et on a commencé déjà, hein, dans nos quelques mois d'existence, à regarder quelles sont les hypothèses qu'ils ont faites. Est-ce que c'est cohérent avec, par exemple, les contraintes internationales? Est-ce que, comment ça se compare avec les autres pays? Et du coup, on arrive et on regarde un peu en diagonale, bon, ce qu'ils ont fait. Et c'est là vraiment notre rôle.
Alors, ce premier rapport, on peut dire qu'il est sans concession. Hein. Vous écrivez, tant que la stratégie nationale bas carbone restera à la périphérie des politiques publiques, on n'y arrivera pas.
Tout à fait. Le plus gros problème que l'on voit dans nos analyses, c'est qu'on a la stratégie nationale bas carbone d'un côté, et qui est très bien, j'en dirai deux mots plus tard. Mmh. En tout cas, les objectifs sont ambitieux. Mais de l'autre côté, on a toutes les décisions qui se prennent dans la société pour toutes sortes d'autres priorités légitimes, évidemment. Mais les deux fonctions opèrent assez séparément en ce moment. Et la stratégie nationale bas carbone, elle ne contraint presque rien sauf la production d'énergie en France. Toutes les autres fonctions, par exemple les transports, l'agriculture, le développement territorial, il n'y a pas de mesure contrainte pour s'assurer que quand on met une loi en place, la loi, elle va aller dans le sens de la stratégie qu'on s'est mis par ailleurs pour réduire les émissions.
Donc là, quand on parle contrainte, vous pensez à quoi?
Le nombre de véhicules thermiques. Quand est-ce qu'on retire les véhicules thermiques de la route? Par exemple, si on prend des décisions au niveau des routes, des autoroutes, des aéroports, des décisions qui vont vraiment influencer où les gens habitent et où ils travaillent. Et presque, en fait, toutes les décisions qui mènent à des changements de structure, l'étalement urbain ou la concentration urbaine, l'agriculture, l'évolution de l'agriculture, les négociations avec l'Europe... Presque tout.
Morgane Créache, quels sont les secteurs qui, aujourd'hui, sont ceux qui produisent justement le plus de ces émissions de gaz à effet de serre?
Tous les secteurs doivent participer pour réduire nos émissions, parce qu'on a parlé de l'objectif qu'on doit atteindre. C'est un objectif quand même très ambitieux. Il faut du coup que tous les secteurs s'y mettent. Mais si on regarde là où il faut agir en priorité, et là où on a énormément de retard, ça reste quand même les transports et le secteur du bâtiment. Il y a des mesures que le gouvernement peut prendre tout de suite. La fin de location des passoires thermiques, donc ces logements qui sont classés en catégorie F où j'ai et qui consomme beaucoup d'énergie. Il y a plusieurs députés aujourd'hui même qui défendent des amendements dans la loi climat-énergie, dans le projet de loi.
Et on voit que c'est houleux quand même.
Et c'est houleux et on voit que le gouvernement n'apporte pas son soutien à ce type de mesures. Donc on espère que le rapport du Haut Conseil pour le climat fera qu'il change son positionnement, parce qu'on voit bien qu'on a beau avoir des incitations dans le domaine de la rénovation, c'est insuffisant. Si on veut vraiment tenir nos objectifs, il faudra en passer par la norme.
Et surtout, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation avant, pendant, après.
Exactement. On se fixe des objectifs, comme le disait Corinne Le Quéré, mais on n'a pas d'instance qui regarde est-ce qu'on est sur la voie de respecter ces objectifs. Donc nous, on pense que c'est important d'avoir ce regard avec un conseil indépendant pour dire chaque année, est-ce qu'on est ou pas sur la bonne trajectoire et dans quel secteur en priorité on doit engager des mesures supplémentaires.
Pardon, pour revenir sur l'histoire des passeurs thermiques, est évidemment un sujet important, rénovation thermique. Pour le coup, je crois que c'est à peu près le logement, c'est à peu près 20%, je crois, des émissions de gaz à effet de serre au niveau de la France, qui est effectivement pas rien du tout. Nous, ce qu'on a raconté, et d'autres confrères sans doute aussi, c'est les... Aurélie disait, c'est houleux, c'est plus qu'houleux, mais c'est des tensions, des rivalités fortes, une bataille politique, y compris des pressions de l'exécutif sur les députés qui essaient d'imposer, justement, en tout cas de mettre hors du marché locatif les passoires thermiques. C'était pourtant ou pour autant une promesse du candidat Macron en 2017. Donc il y a effectivement ces instances comme le Conseil pour le climat, cette obligation de suivre les objectifs, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout un discours politique, en tout cas toute une rivalité politique en ligne de fond qui complique lourdement la tâche. Donc je ne sais pas comment il est possible de s'extraire de ces considérations-là et de faire avancer un sujet comme celui de la rénovation thermique en France.
Surtout qu'on est sur un sujet quand même d'intérêt vraiment général. Hein. C'est bon pour le locataire parce que voilà, il va avoir ses factures d'énergie qui baissent. C'est bon pour le climat. On a quand même 5 millions de ménages en France qui sont en situation de précarité énergétique. Donc c'est une mesure gagnante à plusieurs niveaux. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de députés, pas seulement de l'opposition, mais des députés de la majorité qui portent ces amendements. Voilà, nous on attend la preuve de la part du gouvernement qu'il entend le retard accumulé dans le secteur de la rénovation et qu'il change son positionnement rapidement suite aux recommandations du Haut Conseil pour le climat.
Avec des mesures, hein, Corinne Le Quéré, c'est ce que vous disiez, c'est qu'on ne peut pas passer outre des décisions fermes.
Oui, avant de passer aux mesures, déjà au niveau de l'analyse des bâtiments, les émissions elles diminuent en ce moment, 2% par année, on s'attendait à 3 fois plus, donc la trajectoire qui sous-tend la trajectoire vers la neutralité, mais il se passe déjà, il y a des actions en place. Et ce qu'on a vu dans nos analyses, on a regardé structurellement ce qui se passe et on voit beaucoup de rénovations, 1,7 million de rénovations sur 2014-2005, donc vraiment un nombre important. Mais parmi ces rénovations, très peu qui sont des rénovations en profondeur définition énergétique, donc qui permettent de passer de deux classes de classification énergétique des bâtiments. Seulement 5% des rénovations sont à ce niveau-là. Et du coup, on se pose vraiment la question, quel est le problème? Est-ce que c'est parce que il faudrait avoir un plus grand nombre de rénovations et du coup, on arriverait au compte? Ou est-ce que c'est parce que les rénovations ont peut-être pas été bien faites? Ou peut-être qu'elles ont été bien faites et les gens derrière, ils ouvrent la fenêtre? C'est là où il y a vraiment un manque d'évaluation qui est flagrant et qui est, là je donne un exemple, mais c'est un exemple qui se rejoint dans beaucoup de secteurs. Il faudrait qu'on sache... Bon, quel est le problème spécifiquement? Est-ce que c'est un problème régional? Est-ce que c'est un problème de sorte de bâtiment? Est-ce que c'est un problème des habitudes des gens quand ils vivent dans leur maison? On le sait pas.
Je crois aussi, vous me corrigerez si je dis une erreur, mais je crois aussi que cet enjeu de la rénovation, c'est surtout un enjeu pour le parc privé. Je crois, de mémoire, c'est 43% du parc privé qui ne respecte pas ses engagements, en tout cas qui devrait aller vers cette rénovation thermique et cette interdiction des passoires thermiques. C'est pas du tout le cas pour le parc public, pour le parc HLM. Donc je crois qu'il y a aussi, en termes d'identification du problème, une question de volontarisme politique ou de levier à activer pour contraindre un peu les acteurs du privé à aller beaucoup plus loin
tout
dans ce domaine-là.
Tout à fait. Et de comprendre justement où sont les problématiques exactes, ça nous aide à les résoudre, mais aussi à trouver où il y a les bons exemples. Où est-ce que ça marche effectivement? Parce que pour avoir une réduction de 2%, il y a quand même des endroits où ça marche. Du coup, ça aiderait vraiment à déclencher les leviers.
Alors, parmi les domaines prioritaires, le transport, je vous propose d'écouter avant d'en parler ces propos d'Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Elle s'exprimait sur la loi mobilité le 11 juin dernier sur BFM TV.
On veut baisser de plus de 40% les émissions de gaz à effet de serre des transports à l'horizon 2030. Mais c'est un ensemble de mesures. C'est trois quarts de nos investissements dans les transports qui vont aller sur le ferroviaire. Pendant le quinquennat, on va permettre à 1 million de ménages de remplacer leur voiture par des véhicules qui consomment moins et donc qui émettent moins de gaz à effet de serre et qui coûtent aussi moins cher.
Morgane Créache, une réaction peut-être, parce que effectivement, ce terrain des transports, c'est un enjeu majeur avec des possibilités que vous avez pu identifier, hein, vous, au réseau Action Climat notamment.
Oui, alors le secteur des transports, c'est vraiment le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France, le secteur prioritaire sur lequel il faut agir. Et là, on a un projet de loi qui a été discuté à l'Assemblée nationale et Sénat sur les mobilités. On fait le constat que le climat a très peu été pris en compte dans ce projet de loi sur lequel on a énormément travaillé, nous, en tant que réseau Action Climat, avec des résultats très décevants. Il y a eu quelques avancées, il y a eu la création d'un fonds vélo pour rendre à terre de plus en plus de territoires cyclables, mais qui a des montants dérisoires par rapport aux besoins. On a eu la mise en place aussi obligatoire de zones à faible émission pour limiter dans les agglomérations les plus polluées la place de la voiture et développer les mobilités douces. Mais on n'a pas eu le gros morceau. Quand on pense par exemple au fait que l'aérien aujourd'hui n'est pas taxé, que le transport routier de marchandises n'est pas taxé.
Le maritime non plus.
Voilà, donc c'est, si vous voulez, on avantage de manière compétitive à coût d'exonération ou de remboursement fiscaux. C'est secteurs-là qui pourtant émettent beaucoup de gaz à effet de serre, ce qui fait que les alternatives qui émettent moins de gaz à effet de serre comme le train sont forcément moins compétitives. On n'a pas eu non plus de décision majeure sur quel type d'infrastructure on va construire demain. On a toujours tout un tas de projets autoroutiers dans les cartons dans notre pays qui vont pourtant conditionner nos émissions de gaz à effet de serre sur une longue période. Donc on est encore en attente des changements vraiment structurels dans le secteur des transports et malheureusement voilà, le projet de loi proposé par le gouvernement n'a pas permis des avancées majeures à ce niveau.
Corinne Lequéré.
Mais déjà, au niveau de ce qui se passe dans la réalité, le transport, c'est plus de 30% des émissions, c'est le plus gros secteur émetteur en France. Il n'y a pas eu de baisse en émissions dans les 10 dernières années. Donc ça, c'est la réalité. 10 ans sans baisse en émissions. Il y a une demande, la demande augmente en transport, donc plus de kilomètres. On est en retard sur l'électrification. L'efficacité énergétique des voitures, elle a ralenti. Donc, on préfère les plus grosses voitures, en gros. Et on continue à préférer la voiture, le report modal. Donc, partir de la voiture, aller sur l'autobus ou le chemin de fer ou à pied ou en vélo ne se fait tout simplement pas. Donc, il y a toutes les trajectoires, la structurelle qu'on dit de base, qui ne fonctionnent pas au niveau de la voiture individuelle. Là, c'est vraiment problématique. Il y a une loi mobilité qui est en cours de discussion, très bien, mais qui peut me dire les mesures en place, est-ce qu'elles vont arriver quantitativement à la trajectoire d'émissions qui est dans la trajectoire nationale carbone? Qui peut me dire le chiffre?
On en revient à l'évaluation avant, pendant, après,
à l'évaluation.
Systématique.
Exactement. Donc, peut-être que oui, que les mesures qui sont en place, elles vont marcher. C'est possible. Moi, je ne le sais pas non plus. Mais personne ne peut me le dire. Alors, dans les arbitrages, comment est-ce qu'on peut faire des choix? Comment est-ce qu'on peut dire on va protéger cette mesure-ci parce qu'on peut vraiment dire que cette mesure-ci, elle va faire la différence et celle-là, on la laisse aller? On ne peut pas parce qu'on n'a pas les évaluations en place. Donc ça, c'est vraiment au cœur des décisions, des problématiques à améliorer pour informer les décisions en France.
Simon Roger.
L'une des difficultés de l'analyse, c'est qu'en plus, en la matière, la France, en tout cas, se veut, si ce n'est vertueuse, en tout cas ambitieuse. Je crois que l'objectif qui est défini, alors cette fois-ci, c'est un autre cadre qui était celui-là, du plan climat qui avait été défini par Nicolas Hulot avant de quitter le gouvernement, qui était de mettre fin, je crois, aux voitures thermiques à l'horizon 2040. Donc effectivement, on peut dire, et l'exécutif peut se targuer d'avoir cet objectif qui n'est pas c'est le cas de quelques pays au monde. Enfin, bon, il y a quand même une minorité de pays seulement qui s'inscrivent dans cet objectif-là. Donc il faut préparer les filières, les constructeurs auto à ça. Mais donc le problème, c'est qu'il y a cet objectif 2040, fin des voitures thermiques. On sait clairement que pour l'instant, le parc électrique n'est pas du tout à l'échelle. Et effectivement, il n'y a aucune visibilité, en tout cas un manque de visibilité sur les mesures d'accompagnement, en tout cas les différentes étapes jusqu'à cet objectif 2040.
Et puis la production d'électricité, et puis toutes ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, dès qu'on imagine une nouvelle technologie, on a le sentiment que cette nouvelle technologie, elle peut aussi devenir elle-même un problème dans le futur. Corinne Lequéré.
Oui, mais par contre, là, en France, l'électricité, elle est quand même bien décarbonée. À cause du nucléaire, la grande partie du nucléaire. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre la France et les autres pays en termes d'émissions. Dans la plupart des autres pays, on a une électricité qui vient du charbon. Et les opportunités pour décarboner les autres pays, le Royaume-Uni par exemple, c'est de sortir du charbon et du coup ça va très très vite. En France, on y est déjà. Donc là, c'est problématique. Il y a quand même des défis d'augmenter la capacité électrique de production d'électricité en France, justement pour soutenir ce passage vers l'électrification du transport et des bâtiments et tout. Mais quand même, on fait face tout de suite à des émissions qui sont partout. Les émissions, on les appelle diffuses et même dans un langage international, on les appelle difficiles. Ce sont les émissions difficiles et la France, elle est déjà en plein dedans. Elle est déjà en plein dans les émissions difficiles.
Mais alors du coup, par rapport à d'autres pays hein, qui ont dû sortir du charbon et donc sont peut-être plus massivement allés vers les énergies renouvelables, est-ce que la France n'est pas un petit peu feignante du fait qu'elle s'appuie sur le nucléaire, Morgane Créache?
Non, mais je pense que voilà, il faut pas penser non plus voiture électrique forcément électricité nucléaire. Hein. On peut avoir de l'électricité renouvelable. Et d'ailleurs, on s'est quand même engagé à réduire la part du nucléaire dans notre mix énergétique, même si on prend beaucoup de retard. Hein. Et ce qu'on constate effectivement, c'est qu'avec le nucléaire, même si ça émet peu de gaz à effet de serre, il y a quand même d'autres problèmes, notamment le coût, qui n'est pas un problème anodin, et la question des déchets qui l'est encore moins.
Et la sécurité, effectivement.
Donc, je pense qu'il y a tout un tas de raisons qui font qu'on doit sortir du nucléaire et aller vers plus d'énergie renouvelable et aussi plus d'économie d'énergie pour y arriver. Et on n'en prend pas la voie. En France, on a un retard quand même très important sur nos objectifs en termes de développement des énergies renouvelables. Je voudrais juste revenir sur la place de la voiture, parce qu'on pense toujours que pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, on va passer de la voiture thermique à la voiture électrique ou voiture biogaz. Ça fait partie, bien sûr, du panel des solutions, mais il faut aussi envisager de ne pas recourir tout simplement à la voiture.
Une autre mobilité.
Alors en ville, on peut le dire, hein, ça peut être le vélo, parce qu'on sait quand même que plus de 50% de nos déplacements en voiture en ville font moins de 3 km, donc c'est aisément parcourable à vélo. Mais il y a également d'autres types de mobilité auxquels on peut penser, et surtout au réaménagement du territoire, qui reste une question centrale. Pourquoi on a éloigné les lieux de vie de nos lieux de travail, de nos lieux de loisirs, qui font qu'à terme, on renforce notre dépendance à la voiture individuelle. Donc c'est tout un tas de solutions dans le secteur des transports qui permettra de réduire au niveau nécessaire nos émissions de gaz à effet de serre et pas seulement effectivement la voiture.
Simon Roger.
La question de la voiture me fait penser à un autre sujet qui était au cœur de l'affront des Gilets jaunes, qui est celui de la taxe carbone. Donc avec un rétropédalage il y a quelques mois du gouvernement sur ce sujet, on verra ce qu'il en est. En tout cas, entre-temps, on a vu ce que faisaient d'autres pays, et des pays comme la Suède, par exemple, qui arrivent depuis 91 à instaurer une taxe carbone. L'affaire évolue, puisqu'elle a démarré à 24 euros, et elle est, je crois, aujourd'hui à 114 euros, la tonne équivalente de CO2. Et une taxe qui, semble-t-il, en tout cas, c'est ce que nous raconte notre correspondante en Suède, et on la croit là-dessus, qui est très acceptée par la population suédoise. Donc on est très loin du cas français. Pour le coup, qu'est-ce que le Haut Conseil pour le climat préconise ? En termes de taxe carbone, est-ce qu'on repart à la hausse? Est-ce qu'on est sur une trajectoire longue?
On a bien discuté, évidemment, de la taxe carbone. Et avant de vous dire ce qu'on préconise, je veux juste faire un point de contexte ici. C'est que de répondre au changement climatique, il ne s'agit pas que de déployer des énergies renouvelables. Il faut retirer les infrastructures qui émettent. Et pour ça, il faut mettre un prix au carbone. Il y a plusieurs façons de mettre un prix au carbone dans l'ensemble de l'économie, dont la taxe carbone, mais il y a aussi d'autres façons. Il y a les règles, il y a les normes, il y a aussi les choix, hein, avec les labels. Ensuite, il y a les subventions, les investissements qui encouragent les gens. Donc, il y a des méthodes pour pousser, il y a des méthodes pour tirer, et dont la taxe carbone. Et la taxe carbone, théoriquement, c'est l'instrument le plus puissant pour faire sortir l'ensemble de l'économie d'un comportement qui est néfaste ici, émettre du CO2, causer les changements climatiques, à un prix qui est le plus faible pour l'ensemble de la société. Donc, théoriquement, c'est un instrument très, très puissant.
Mais elle n'a pas très populaire.
Elle n'a pas marché en France, c'est clair. Elle n'est pas juste de la manière dont elle est installée en ce moment. De sa conception actuelle, elle n'est pas juste, elle n'est pas complètement efficace. Donc, nous, on recommande de la faire évoluer. puisque c'est un instrument puissant, puisqu'il faut mettre un prix au carbone parce que ça pollue, parce que ça cause les changements climatiques. Et pour la faire évoluer, il y a plusieurs éléments qui n'ont pas marché. Par exemple, l'aspect d'égalité de la taxe carbone, donc remettre plus de revenus aux ménages qui souffrent le plus. L'aspect de transparence, si on met une taxe carbone, c'est pas pour mettre des sous dans les poches de l'État, c'est pour mettre un prix sur le carbone. Donc
où va la taxe carbone
exactement. Et aussi les investissements, parce que s'il n'y a pas d'alternative, on peut avoir la taxe la plus haute qu'on veut, il ne va rien se passer de toute façon. Donc, accompagner les ménages à faire et les entreprises à faire des transitions. Et peut-être dernier point aussi, il y a trop d'exemptions en ce moment sur la taxe carbone. Il faut que la taxe carbone, dans une forme future, elle touche le plus grand nombre de personnes possible pour avoir justement cette égalité dans les mesures.
Et comme vous disiez, dans le respect de la justice sociale, c'est important.
Absolument.
Vu le contexte et effectivement, vu ce qui s'est passé à la rentrée.
Et si la taxe carbone, elle ne marche pas, ça ne sert à rien de la remettre. Donc, il faut vraiment travailler de fond pour faire évoluer l'instrument.
Non, ce qui est un petit peu désespérant par rapport à la taxe carbone, c'est que ce que vous dites, ce qui semble effectivement de l'ordre du bon sens, c'est tout à fait ce qui est appliqué en Suède, où les autorités suédoises ont compris qu'il fallait que ce soit juste, donc ils l'ont inscrit dans une réforme fiscale globale. Mmh. Pour que ce soit encore plus juste, ils ont fait en sorte qu'il y ait des allègements d'impôts pour les plus défavorisés. On n'ait pas ce souci d'injustice sociale comme on le repère en France. Ils l'ont fait de manière progressive. Vous êtes franco-canadienne, il y a aussi un exemple qui marche très bien en Colombie-Britannique, au Canada. Donc ce qui est un peu hallucinant dans cette affaire, c'est qu'on a l'impression que la France ne regarde pas à côté de soi et ne prend pas exemple sur d'autres pays ou d'autres régions qui fonctionnent.
Comme Simon Roger nous donne envie de partir en Suède, eh bien on y va et ensuite on reprend la discussion. Écoutez ce reportage diffusé sur France 3, c'était le 2 mai 2018.
Il n'y a pas plus beaucoup de maisons en Suède qui se chauffent en fuel. Ça existe, mais ça c'est vraiment très mauvais, parce qu'il y a beaucoup de rejets de CO2, et ça, on ne voulait pas ça.
Si les Suédois ont changé en masse de système de chauffage, c'est à cause d'une taxe, la taxe carbone. D'une vingtaine d'euros la tonne en 91, elle est passée à près de 120 euros. Consommer du fioul, du charbon est devenu beaucoup plus cher, et les particuliers en maison individuelle n'ont pas été les seuls à évoluer.
Quand on regarde les statistiques d'émissions de gaz à effet de serre en Suède, le secteur du chauffage est celui qui a le plus baissé. On n'utilise presque plus d'énergie fossile pour produire de la chaleur ou de l'électricité maintenant.
Autre secteur économique qui a basculé avec la taxe carbone, les transports. Les carburants fossiles sont devenus plus chers et les clients n'ont plus voulu de taxis polluants.
Là, on est dans une Volvo V90, au biogaz.
Un taxi qui roule au biogaz, rien d'original. La quasi-totalité des véhicules de la flotte n'utilisent plus d'essence ou de diesel. Une adaptation économique nécessaire pour la plus importante compagnie de taxi de la capitale.
Je suis très fier car c'est une voiture qui respecte l'environnement. J'aide à préserver cet environnement pour contribuer à un air plus sain pour nos enfants, pour le futur. Alors quand je dors, eh bien je dors très bien.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Corinne Le Quéré, des instances comme la vôtre, donc ce Haut Conseil pour le Climat, existe aussi dans d'autres pays, sous d'autres appellations. On entend l'exemple de la Suède, il y a d'autres pays effectivement qui sont vertueux sur tel ou tel terrain. Est-ce que vous avez pour ambition, ou est-ce que vous travaillez d'ores et déjà avec d'autres pays pour pouvoir profiter de leur retour d'expérience?
Merci. On a beaucoup d'échanges avec le Royaume-Uni en particulier. Moi, je siège au niveau du comité sur les changements climatiques du Royaume-Uni depuis 3 ans. Et donc, je bénéficie en gros de mon expérience. Le Royaume-Uni, le comité là pour les changements climatiques est en place depuis 11 ans. Donc, il bénéficie vraiment d'une décennie complète d'expérience. Ça marche très bien. Ils ont une très bonne voix indépendante dans la société. Ils sont très écoutés par le gouvernement et les émissions baissent. Donc, il y a beaucoup d'expériences à transférer, mais je dois dire aussi des deux côtés aussi, parce que comme en France, comme je disais, on en fait déjà face aux émissions difficiles, qui est au Royaume-Uni, là, ça commence avec les transports. Je pense qu'il y a des transferts d'expériences qui sont vraiment importants à faire.
Et quels sont aujourd'hui peut-être les pays qu'on pourrait dire vertueux ou plus vertueux que nous, en tout cas?
Ben, vous les avez mentionnés, le Royaume-Uni et la Suède, je pense que sont les deux pays qui ont en place déjà où les émissions diminuent et où ils ont des objectifs ambitieux et des structures indépendantes pour l'évaluation.
Simon Roger.
Quand on parle des politiques à mettre en place, en fait, on parle, en tout cas en France, on parle souvent de l'échelon européen. Beaucoup de choses se passent dans les instances de l'Union européenne, que ce soit sur l'énergie, sur les transports. Est-ce qu'il y a un échelon européen qu'on pourrait activer qui serait... Là, je sais qu'il y a un conseil européen qui a eu lieu il y a quelques jours, qui a malheureusement a chopé sur l'ambition climatique, c'est-à-dire que quatre pays, dont la Pologne en fer de lance, ont bloqué la proposition des 24 autres, donc de notamment s'inscrire dans la neutralité carbone, donc à l'horizon de 2050, mais de l'Union européenne cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des instances ou un niveau d'action à trouver au niveau des instances européennes?
Il y a beaucoup de leviers au niveau européen, mais effectivement, au niveau des objectifs, ça y est pas encore tout à fait. Il y a quand même 24 pays qui soutiennent une neutralité carbone en 2050, mais malheureusement, ça doit être à l'unanimité et on n'y est pas encore. Il y a un gros échéancier de calendrier qui arrive là d'ici la fin 2020, où les pays se sont engagés à revoir leurs ambitions à l'intérieur de l'accord de Paris qui soutient là les accords internationaux au niveau du climat. Et donc, l'Europe va devoir arriver dans son ensemble avec des objectifs plus forts. On peut ne revoir que dans une direction. Donc, cet échec, en fait, de la neutralité carbone au niveau européen va devoir être revu d'une façon ou d'une autre d'ici les deux prochaines années. Donc, du coup, l'objectif de la France va encore jouer beaucoup à plusieurs niveaux pour faire avancer au niveau européen les politiques.
Et vous le mentionnez dans le rapport, vous dites qu'il faut effectivement que ces politiques nationales s'harmonisent à tous les échelons avec les politiques régionales, mais aussi européennes, et que ça franchisse bien évidemment les frontières. Nous reprenons cette discussion fructueuse avec vous dans un instant, juste après notre choix musical. Et c'est un chanteur engagé sur le terrain de l'environnement que vous allez entendre dans un instant. C'est le chanteur M, Super Chéri.
De toi j'ai toujours envie.
Et c'est la suite de notre émission de Cause à effet sur France Culture. Nous poursuivons notre émission consacrée aujourd'hui au premier rapport du Haut Conseil pour le climat et à cette urgence climatique qui nécessite que la France mette le turbo et qu'elle soit plus performante et plus efficace si elle veut tenir ses engagements en matière d'objectif neutralité carbone d'ici 2050. Telle est la teneur du rapport et nous en discutons avec Corinne Le Quéré, climatologue, présidente du Haut Conseil pour le climat, Morgane Créache, directrice du réseau Action Climat, et puis Simon Roger, rédacteur en chef des pages Planète du journal Le Monde. Et je vous rappelle qu'en seconde partie d'émission, Maxime de Rostolan, le créateur des Fermes d'Avenir, sera en ligne pour nous présenter son nouveau challenge citoyen. Mais tout de suite, c'est la revue d'Info Environnement. Et en cette période de chaleur propice aux pics de pollution, une décision de justice a marqué l'actualité de la semaine. Le tribunal administratif de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, a reconnu une faute de l'État français pour insuffisance dans la lutte contre la pollution de l'air. Cette décision historique fait suite à un recours pour inaction et carence fautive déposé par une mère et sa fille, victimes toutes les deux de pathologies respiratoires quand elles vivaient en banlieue parisienne. Depuis, elles ont déménagé à Orléans, où elles vivent désormais plus normalement. Pour rappel, 67 000 personnes meurent chaque année prématurément en France à cause de la pollution de l'air. Et à découvrir aussi sur lemonde.fr la tribune publiée d'un collectif de médecins français qui dénonce l'augmentation de la fréquence de certaines maladies chroniques et les décès justement dus à la pollution. Autre information utile en cette semaine chaude, les effets de la climatisation. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la climatisation représente 10% de la consommation électrique mondiale. Et le nombre de climatiseurs pourrait tripler d'ici 2050. Cerise sur le gâteau, les climatiseurs mangeurs d'énergie rejettent en plus des fluides frigorigènes polluants et en refroidissant les habitations équipées, ils envoient de l'air chaud à l'extérieur. Pour éviter ces travers, à lire le magazine Oui Demain vous propose des alternatives plus respectueuses de la planète. Qui remporte la palme du moins de notre sélection cette semaine, c'est la compagnie de forage Taylor Energy, responsable de la fuite de 17 000 litres de pétrole qui s'échappe chaque jour d'une plateforme depuis 15 ans dans le golfe du Mexique, une plateforme pétrolière située à une vingtaine de kilomètres des côtes de Louisiane. Et le plus de la semaine en cette saison estivale revient à un guide à emporter en vacances, Observer les oiseaux en France. C'est le titre de ce livre paru chez Biotope, un compagnon érudit et détaillé qui, région par région, vous aidera dans vos déambulations à la rencontre de quelques-unes des 400 espèces d'oiseaux régulières qui existent en France. Indispensable pour les ornithologues amateurs ou plus aguerris. Et puis je vous signale aussi à mettre dans la valise le dernier numéro du magazine Regain. Toujours aussi enthousiasmant, un temps sur le fond que sur la forme.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Est-ce que vous voulez réagir à l'une de ces informations ?
La décision, Morgane Crash. Ouais, sur la décision, le jugement du tribunal de Montreuil. Hein. On connaît le problème de la pollution quand même depuis des années. C'est pas la première fois que la France se fait épingler, puisque même la Commission européenne a dit à la France de mettre en place des mesures supplémentaires pour réduire les niveaux de pollution. On est en dépassement constant. Il y a des avancées avec ces fameuses zones à faible émission qui ont été actées dans le projet de loi mobilité et qui concernent les agglomérations les plus polluées. Il faudra qu'on soit quand même vigilant sur la mise en œuvre. Là, on parle à la fois de climat, de pollution, mais au final, on parle de santé et on sait que c'est les personnes les plus fragiles et notamment les enfants qui sont les plus affectés.
Simon Roger.
Ça fait penser sur le même sujet de cette décision du tribunal administratif. Bon, je reprends juste à l'argument qui est celui de la carence fautive ou de l'inaction. Ça me fait penser à une autre affaire en cours qui est l'affaire du siècle, puisque cette fois-ci, la question en suspens est celle de l'inaction climatique de l'État face au changement climatique. C'est juste pour rappeler que ces questions-là sont évidemment prennent beaucoup d'importance et les actions en justice prennent, alors je dis pas qu'elles sont là pour pallier les insuffisances de l'État, mais en tout cas prennent beaucoup d'importance dans notre actualité, en tout cas dans les questions qu'on se pose sur la lutte contre le dérèglement climatique, les questions liées relatives à la biodiversité ou à d'autres choses.
Mais c'est un levier qu'il faut qu'on utilise de plus en plus, hein, et qui fonctionne ailleurs, hein, et il faut qu'on s'empare de ce levier pour faire avancer aussi les politiques. Donc
le levier de la justice, en tout cas les tribunaux, etc.
Exactement, utiliser tous les moyens qu'on a aussi à notre disposition pour pousser les politiques à adopter des mesures qui favorisent l'intérêt général.
Dans un autre sujet qui est celui des pesticides, qui aussi occupe beaucoup de notre... Bon, en tout cas, qui est un sujet crucial pour nos sociétés et nos modes de consommation et de production. Je crois qu'il y a plus de 10 000 actions en justice qui démarrent, en tout cas, qui sont en train d'être instruites aux États-Unis sur le seul produit du Roundup de Monsanto. Mmh. Enfin, sur Monsanto, en tout cas.
Et autre sujet, la vague de chaleur prématurée en juin est un rappel brutal de ce qui nous attend avec l'impact des changements climatiques si on ne fait rien. Et on parle beaucoup d'atténuation, on ne fait que de l'atténuation pour le moment dans le Haut Conseil du climat, mais il faudra parler très très vite d'adaptation au changement climatique, important.
Oui, l'adaptation.
Ça viendra d'ici peu.
Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui se profile en tout cas. Corinne Le Quéré, donc ce premier rapport du Haut Conseil pour le climat a été rendu cette semaine. Réponse du gouvernement dans les 6 mois. Quelles sont peut-être d'ores et déjà les réactions en haut lieu depuis la parution?
Mais déjà, entre-temps, nous serons entendus par le Conseil de défense écologique début juillet, donc par le président, le premier ministre et plusieurs ministres. Et je pense que suite à ça, on en saura un peu plus. Mais effectivement, la réponse du gouvernement d'ici la fin de l'année, ils se sont déjà engagés à nous la faire. Et je trouve que c'est très bien de prendre son temps pour faire une bonne réponse. On a fait des recommandations de fond et il va falloir avoir une réponse à la hauteur.
Morgane Crèche.
Effectivement, le gouvernement a 6 mois pour répondre, mais en attendant, il y a des projets de loi qui sont discutés, il y a des grandes programmations qui sont élaborées, et il faut que le gouvernement tienne compte de son retard pris dans l'atteinte de ses objectifs à travers ces programmations. Je pense à la loi énergie-climat qui est discutée, à la nécessité d'interdire à terme la location des passoires énergétiques. Je pense au projet de loi de finances. Voilà un texte qui est vraiment structurant. On a toujours 11 milliards d'euros chaque année en France qui vont directement alimenter des secteurs à l'origine des changements climatiques comme le transport routier de marchandises ou le transport aérien. Le projet de loi de finances, il est élaboré en ce moment, il va être présenté à la rentrée. Donc il faut vraiment que le climat devienne un élément central de ce projet. Et je pense enfin à un autre programme dont on parle peu, le programme national nutrition santé, qui est piloté par la ministre de la Santé, mais qui fait fi de nos objectifs climatiques. Alors qu'on sait que si on ne fait pas évoluer notre assiette vers moins de viande et moins de produits laitiers, on ne tiendra pas non plus nos objectifs climatiques. Donc toutes ces programmations, c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'on attend du gouvernement qu'il en fasse plus et qu'il impose des réglementations ambitieuses.
Il y a un gouvernement qui s'est aussi engagé auprès des citoyens avec la Convention citoyenne. On rappelle aussi le travail de la CNDP, la Commission nationale du débat public. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'engagements ou de promesses lancées et seront-elles tenues? C'est effectivement ce qui sera l'objectif de la rentrée. Simon Roger.
Non, je voulais juste rappeler aussi que Nicolas Hulot, en son temps, en tout cas Nicolas Hulot, ministre, je me rappelle de conversations qu'on avait eues avec lui durant donc son mandat de ministre, ou même au moment d'ailleurs où il quitte le ministère, on faisait le constat que le Conseil pour le climat fait dans ce premier rapport, qui est un rapport à mon avis très précieux, mais pas scoopique en soi. Enfin bon, c'est des questions des politiques publiques. Et lui nous disait déjà, ou disait de manière en on ou en off aux journalistes, le souci, c'est que mon souci en tant que ministre, c'est d'arriver à convaincre mes collègues des différents ministères d'insuffler dans leur politique publique ces impératifs-là, notamment ces impératifs de lutte contre le changement climatique.
Corinne Le Quéré, c'est ce que vous mettez aussi noir sur blanc dans le rapport, c'est que les changements, ce que vous préconisez, ça doit se faire à tous les niveaux, c'est-à-dire pas uniquement dans le cadre du ministère de la Transition écologique et solidaire, mais ça doit passer par tous les décideurs, tous les politiques, tous les ministères doivent être soucieux en priorité de ce réchauffement climatique.
Exactement, et je m'attends à beaucoup du Conseil de défense écologique qui effectivement amène tous les ministères à réfléchir et agir sur ces questions de changement climatique. Et donc, il reste à voir maintenant ce qui va suivre.
Alors, les collectivités territoriales sont des acteurs incontournables. Le Haut Conseil du climat a pour ambition d'aller justement explorer aussi ce qui se passe en région.
Oui, on a vu qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent en région, des actions innovantes. Il y a beaucoup d'acteurs qui s'emparent des problématiques climatiques pour faire avancer dans les régions les réponses au changement climatique. Et on trouve que d'articuler la stratégie nationale au niveau régional, en fait, c'est une belle promesse d'avenir que nous, on voudra soutenir. Donc, pour la rentrée, j'espère effectivement pouvoir explorer cette route un peu davantage pour avoir plus d'éléments et de recommandations à faire plus précises dans les mois et les années qui viennent.
Eh bien, nous allons suivre tout cela. N'hésitez pas à nous tenir au courant, bien évidemment, Corinne Le Quéré. Merci à tous les trois. Merci Simon Roger, merci Morgane Créache. Vous pouvez rester avec nous, bien sûr. C'est la suite avec ces citoyens, justement, qui se bougent pour enclencher la bascule.
Salut. On ne va pas vous faire une vidéo pour vous informer que le changement climatique est la plus grande menace à laquelle l'espèce humaine doit faire face. Les scientifiques nous alertent depuis assez longtemps. On a 2 ans pour changer de cap.
Le besoin de justice sociale est une réalité. On trouve insensé que les 26 personnes les plus riches détiennent autant que la moitié de l'humanité.
On sait qu'on est déjà des millions à penser ça. La preuve avec le manifeste étudiant pour un réveil écologique, qu'on a été 30 000 à signer.
C'est de ce genre d'appel dont on a besoin. Là, il vient des étudiants qui n'en peuvent plus de constater à chaque nouvelle info qui tombe que le monde n'est pas sur le bon chemin. Comme eux, on est des millions de convaincus, à notre échelle et sur notre territoire, à essayer de réparer la société.
Mais en pratique, comment ça va se passer? En fait, on va organiser des groupes de travail en fonction des compétences de chaque étudiant.
Et pour chaque groupe, on a besoin de 10 étudiants, disponibles à temps plein pendant les 6 prochains mois, jusqu'au rassemblement qu'on organisera partout en France.
Du coup, si toi aussi t'as vraiment envie de changer des choses et que t'es dispo pour les 6 prochains mois pour bosser avec nous, alors rendez-vous sur le lien de la description.
Bonjour Maxime de Rostelan.
Bonjour.
Vous êtes fondateur des Fermes d'Avenir, de Bluebees, et puis tout récemment, du mouvement citoyen La Bascule. Alors, expliquez-nous quand même si on vient d'entendre l'extrait d'une vidéo qui circule sur Internet, La Bascule, lancée en mars, un mouvement lobbying ambitieux. L'idée est venue d'où?
L'idée, elle est venue à la suite des marches pour le climat, des grèves des étudiants, et aussi de l'électrochoc qu'a provoqué chez beaucoup de monde la démission de Nicolas Hulot. On se dit qu'il y a un changement d'époque qui est en train d'arriver et que c'est le moment de se fédérer, de se rassembler et d'appuyer de plus en plus fort pour faire pression du bon côté, donc pour inverser le rapport de force et faire basculer le système dans le bon sens. Et donc comme il y a énormément de gens qui cherchent les manières de s'engager, qui ne savent pas, ils ne savent pas comment se rendre utile, certains font déjà plein d'efforts, font leur colibri, mangent bio, prennent plus l'avion, etc. Mais ils veulent aller plus loin. Et en fait, ils sont un peu désemparés et c'est vraiment de ce constat qu'est née La Bascule. On s'est dit, écoutez, s'il y a plein de gens qui sont motivés, allons-y, bossons ensemble, travaillons sur un mouvement de lobbying citoyen pour appuyer sur aux bons endroits dans le système pour essayer de faire changer les choses. Donc, quand on a commencé ça, on était avec une quinzaine d'étudiants qui ont lancé donc cette petite vidéo qu'on a entendue, et on a fait un appel à candidats. Et on a eu 800 candidatures de gens qui étaient prêts à venir bosser bénévolement un mois, plusieurs mois, pour accompagner cette dynamique.
Et on entendait donc des étudiants qui ont même demandé l'autorisation dans leurs écoles à pouvoir effectivement s'extraire du cycle scolaire, universitaire ou autre pendant 6 mois pour vraiment s'engager et en ayant eu justement un blanc-seing finalement.
Bien sûr, alors tous n'ont pas eu ça, mais beaucoup là envisagent de faire une année de césure parce qu'en fait, on parle du service national universel. On a vu ce qui est sorti récemment. Je suis pas sûr que ça ressemble exactement à ce qu'on pourrait imaginer de mieux. Et nous, on essaye de faire quelque chose dans ce sens-là en disant rendez-vous utile pendant un an pour aider la société à changer. On vous parlait tout à l'heure avec vos invités de ce qui peut se faire sur les territoires. On a une trentaine de bascules locales qui se sont créées spontanément et qui incarnent au plus proche de chez elles et surtout dans leur manière de vivre, de travailler et d'appréhender leurs voisins et leurs relations humaines, elles incarnent le monde qu'on espère voir arriver bientôt. À la base, c'était des étudiants. Maintenant, on est vraiment avec un quart des personnes qui sont pas des étudiants, mais qui sont plutôt des seniors qui ont décidé de faire une pause dans leur vie professionnelle dans laquelle ils trouvaient pas forcément tout le sens espéré, et ils se mettent à disposition de ce projet qui nous dépasse, parce que c'est un gros chantier participatif. Et donc, ça se fait. La Bascule, nous, on a un quartier général à Pontivy, donc dans une ancienne polyclinique désaffectée qu'on nous prête gentiment. Et donc, on est entre 60 et 80 à habiter là et à travailler ensemble. Et ça se décline sur les territoires avec les bascules locales.
Alors, quand vous dites travailler ensemble, Maxime de Rostelan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rassemblez, et c'est une sorte d'incubateur d'idées, d'innovations, de solutions, des initiatives, d'alternatives pour véritablement faire émerger un modèle optimal, effectif sur le terrain pour demain.
Incubateur, c'est peut-être pas exactement ce qu'on a. Nous, on a des groupes de travail qui ont, pour certains, une ambition politique, bien que apartisane, on n'est pas un parti et on ne présentera jamais personne aux élections et on ne donnera pas de consigne de vote. En revanche, on sait que politiquement, il y a beaucoup de choses à faire. Former des citoyens pour créer des listes sans étiquette ou avec l'étiquette qu'ils souhaitent pour les municipales. Toute la partie politique, on accompagne la convention citoyenne. C'est 150 citoyens tirés au sort qui vont travailler sur la transition écologique. Donc, sur la partie politique, il y a un groupe de travail. Sur la partie nouveau récit, il y a tout un groupe de travail avec une dizaine de volontaires qui travaillent pour créer du contenu, pour essayer de continuer à montrer ce monde désirable et essayer d'avoir une vision positive de l'avenir, à quoi ça pourrait ressembler. Il y a un autre groupe de travail sur les outils numériques, et là, alors, il s'agit de commencer petit à petit à se détacher des GAFA et de Facebook. On sait comment ces réseaux peuvent influer dans des élections, on l'a vu au Brésil ou aux États-Unis. Donc ça, c'est le groupe de travail outils numériques. On a le groupe de travail NEMO, donc nouveaux emplois et modèles d'organisation. Et là, l'enjeu, c'est effectivement de faire émerger ces nouveaux types d'entreprises, ces entreprises à mission, qui ne sont pas là juste pour faire de l'argent.
Donc l'idée, c'est quand même, avec la bascule, de relier tous les acteurs de la transition pour peser vraiment dans le débat public et aussi quand même sur l'agenda politique et l'agenda économique.
Tout à fait. On est convaincu qu'il n'y aura pas de transition écologique ni de transition sociale s'il n'y a pas une réelle transition démocratique. Donc on fait converger en fait toutes ces dynamiques de manière positive et dans la joie en disant on travaille tous dans le même sens, accordons-nous et essayons de mettre en place une stratégie commune. Alors évidemment avec la diversité de chacune des organisations qui participent à cette dynamique, mais essayons quand même de déployer une stratégie commune qui soit à la hauteur des enjeux et qui pourra peser sur l'agenda politique et sur les décisions à venir. Nous, ce qu'on veut, c'est juste remettre l'intérêt général au sommet des priorités.
Vous le disiez quand même tout à l'heure, Maxime de Rostolan, il y aura en ligne de mire, là, assez rapidement, et dès la rentrée, quand même, les municipales, même si l'objectif, si on comprend bien la bascule, ce n'est pas forcément de partir dans ces batailles et de constituer des listes, mais aussi des listes citoyennes, c'est par là que ça passe, l'évolution.
Exactement. Il n'y aura jamais d'étiquette, la bascule, ce ne sera pas un parti. En revanche, nous, on va aider des citoyens à envisager, on va essayer de les encapaciter pour qu'ils puissent faire des listes citoyennes et des dynamiques locales au niveau de leur ville, parce qu'il me semble que c'est l'échelon le plus adapté pour se réapproprier la politique. Et il y a 17 000 maires qui ne se représentent pas, donc il y a une vraie autoroute pour des ambitions citoyennes, et donc du coup on veut faire en sorte que ce soit une réalité et que beaucoup de listes, comme ce fut le cas à Saillant ou comme ma sœur d'ailleurs à Avranches, ont pu le faire, essayer de prendre leur mairie et de reprendre en main leur destin. Ouais.
Donc être une alternative, est-ce que malgré tout, il y a des têtes de liste emblématiques peut-être qui pourraient être intéressées d'ores et déjà ou pas, ou
vous n'en... Non, êtes alors pas... encore une fois, nous, on parle aux citoyens, donc évidemment nous on s'inspire de tout ce que les maires engagés ont pu faire, donc on organise à la fin de l'été un rassemblement qui s'appelle l'An Zéro, dont je vous parlerai juste après, mais à l'An Zéro, on aura donc par exemple Damien Carême, Gilles Pérol, beaucoup de maires qui ont l'audace d'essayer de changer les choses sur leur territoire. Mais encore une fois, l'ambition de la bascule ne se limite pas du tout à cet horizon des municipales. L'idée, c'est vraiment de créer les conditions favorables à l'émergence d'un vrai renouveau démocratique, quoi. Et donc ça, pour nous, ça a une date. On se dit que l'An Zéro, là où tout peut commencer, ce sera fin août, donc les 30, 31 août et 1er septembre, sur le plateau de Mille Vaches, dans la Creuse, on fera donc un grand rassemblement auquel participeront énormément d'organisations qui co-organisent avec nous tout ça. Et donc, on a des organisations aussi bien militantes comme Alternatiba, mais aussi des organisations plus civiques comme Démocratie Ouverte, Tous Élus, et puis des réseaux d'entreprises engagées comme Bicorp ou autres. On parle aussi bien d'écologie que de justice sociale et de démocratie. On a donc plus de 80 organisations qui co-organisent ça. Nous aurons Nicolas Hulot qui viendra faire un discours anniversaire de sa démission, et on aura pas mal d'artistes qui seront là pour qu'on affirme tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, qu'on est déterminé à faire en sorte que les choses changent. Et elles vont changer.
Donc faire converger les initiatives vers une vision globale pour que le jeu devienne nous. C'est l'événement L'An Zéro qui se passera à Pigerolles. Alors il faut préciser quand même que c'est sur un terrain mis à disposition par des agriculteurs bio.
Exactement, ouais, bien sûr. C'est un éleveur bio qui nous accueille, et donc on attend 10 000 personnes sur ces 3 jours. Et il y aura des grosses affiches musicales, je peux pas tout dire, parce que sinon on sera victime de notre succès et il y aura trop de monde, parce que l'intérêt sur surtout, c'est ce qui va se passer pendant les journées, c'est les ateliers, il y a des formations qui vont être mises en place, et le soir, eh bien, on profitera de la musique.
Alors, on peut quand même citer les noms des agriculteurs bio, hein, Sylvie et Joanie Chatou.
Tout à fait.
Et donc, un événement que vous pensez quand même aussi, Maxime de Rostolan, low-tech, hein, le plus bas carbone possible.
Ah ouais, bien sûr. Alors évidemment, nous on est en partenariat avec Emmaüs qui va nous donner pas mal de matériel pour qu'on fasse la scénographie. On privilégie la venue à pied depuis la gare, puisqu'on fait des itinéraires, une forme d'odyssée depuis la gare de Limoges ou de Émoutiers par exemple, pour venir en 1, 2 ou 3 jours. On va organiser des navettes depuis les grandes villes pour éviter qu'il y ait trop de véhicules. Et puis bien sûr, l'énergie, on a la chance d'être sur une ferme qui a une unité de méthanisation, donc l'énergie sera produite sur place et on sera presque en cercle fermé avec les toilettes sèches, mais je ne rentre pas dans les détails.
Concerts, ateliers, conférences, rencontres, formations alternatives, des villages en voiture, en voilà, j'ai envie de dire, c'est-à-dire civiques, militants, participatifs, sportifs, épicuriens pour les enfants, pour les étudiants.
C'est ça, à peu près. Il y a aussi le village intérieur pour essayer de mettre un petit peu de spiritualité dans tout ça et de se reconnecter avec son moi profond. Il y aura aussi le grand village des alternatives qui lui présentera aussi bien les entreprises que les associations qui ont des solutions et qui les déploient déjà sur les territoires pour inspirer les gens. Le public qu'on vise, c'est surtout des gens qui sont déjà convaincus. On ne va pas essayer de à nouveau rabâcher le constat. On est sur des gens convaincus qui veulent passer la seconde. Et en fait, on va les aider à passer la seconde. Notre objectif, c'est qu'en repartant, ils aient une feuille de route ou un programme d'action pour leur année scolaire 2019-2020. C'est à la veille de la rentrée, donc c'est idéal. Et si ce programme d'action peut en plus être très participatif et commun, et ben en fait, ça ne fera qu'amplifier l'impact de nos engagements.
Vous attendez combien de personnes par jour, Maxime de Rostolan? En tout cas, vous pouvez en accueillir combien?
On espère accueillir 10 000 personnes par jour. Donc évidemment, il y a un camping sur place et de la restauration. Et on peut accueillir jusqu'à 15 000 personnes. On dimensionne le site pour 15 000.
Et donc, il faut préciser qu'il y a des centaines de bénévoles, bien évidemment, impliqués sur ce gros événement.
Et il y a des bénévoles qui s'installent dès le 15 juillet sur le site pour commencer à concevoir et fabriquer les différents modules. Donc si certaines personnes veulent venir nous rejoindre en tant que bénévoles en amont, ce serait formidable. Si d'autres veulent venir juste pour la durée du festival, c'est possible. Et si d'autres veulent s'engager dans la bascule à plus long terme et prendre quelques mois pour venir avec nous travailler, voilà, cette bascule, eh bien en fait, on est tout à fait ouvert. On va ouvrir des nouveaux quartiers basculeurs, donc des nouveaux QG, comme la clinique de Pontivy. Eh bien, on va en ouvrir dans d'autres territoires et proposer à ceux qui le souhaitent de s'engager, de vivre ensemble et de travailler ensemble pour un monde désirable.
Donc, on va préciser, alors que le billet est à 8 euros, voilà.
Et de la participation consciente. On a mis des préventes, il fallait mettre un prix, on a mis 8 euros. A priori, on se base sur la participation consciente. Et en tout cas, vous pouvez effectivement réserver à partir de 8 euros aujourd'hui. Et on va voir comment évolue la jauge, mais il y a déjà beaucoup de réservations. Donc, a priori, on va rester là-dessus. Ouais.
Donc, 30 et 31 août et 1er septembre. Auparavant, quand même, les 4 et 5 juillet, il y a des journées partenaires à Pontivy.
Alors, effectivement, les 4 et 5 juillet à Pontivy, on accueille toutes les organisations partenaires. Il y a quand même, on travaille déjà avec plus de 60 organisations. Et donc, on fait un moment pour célébrer ce lancement, pour préparer l'an zéro et puis surtout pour commencer à vraiment poser des jalons dans notre stratégie pour atteindre des victoires au fil du temps et sentir le monde changer dans le bon sens.
Merci à vous Maxime de Rostolan. Donc à suivre bien sûr tout sur le site de l'émission, les liens, les informations concernant la bascule, l'événement l'an zéro, franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute à votre disposition. Et puis, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet, ou sur notre page Facebook. De cause à effet, c'est la fin de cette saison 3. On se retrouvera avec plaisir à la rentrée, mais auparavant, dès la semaine prochaine, dans la grille d'été sur France Culture, vous pouvez et pourrez découvrir ou redécouvrir le meilleur de nos émissions tous les samedis matins à 8h05. Rendez-vous samedi prochain pour un bel été ensemble. D'ici là, bonne fin de dimanche et dans un instant, c'est la suite de vos programmes sur France Culture avec Être et Savoir et Louise Touré.